savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Autrement dit, quand est-ce le voyage que commence vraiment le pèlerinage? À quel endroit exactement?
Oui, c'est ça. Dans un endroit qu'on appelle Rabat. C'est là où on voit qu'il fait nos habits. Et on met par exemple deux serviettes.
Oui, je pense que c'est ce qui s'appelle la tenue d'Iran, mais qui doit nécessairement ne pas comporter de couture.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le pèlerinage à la Mecque, qui figure au cœur des devoirs de tous les musulmans, s'est trouvé endeuillé en septembre dernier par deux drames successifs. La chute d'une énorme grue sur le chantier d'agrandissement de la grande mosquée a fait périr plus de 100 personnes. Et 15 jours plus tard, une bousculade provoquée par le choc de foules incontrôlées a laissé sur le terrain plus de 1500 morts ou blessés. Ce ne sont pas les premières catastrophes survenues en ce lieu sacré où chaque année se retrouvent entre 2 et 3 millions de musulmans dont les mouvements ne peuvent être que très difficilement maîtrisés par les autorités de l'Arabie Saoudite qui les accueillent. L'une des grandes religions monothéistes qui prospèrent sur notre planète concentre là, sur un si étroit territoire au regard de tant de fidèles concernés, un de ses rituels essentiels. Et dans l'instantané de cette conjoncture dramatique, le goût vient de le replacer dans la tradition pluriséculaire d'une puissante migration temporaire. Pour en comprendre les ressorts, la portée, les avatars, les succès et les débordements. Le voyage à la Mecque, c'est précisément le titre d'un livre apprécié que vient de publier Sylvia Schifolo, chercheure au CNRS, historienne du monde arabo-musulman. Elle est devant moi et nous allons, je n'en doute pas, tirer bon profit de sa compétence. Et pour commencer, un reportage pour les actualités françaises qui était donné dans les cinémas, un reportage de 1946, sur le départ de Rabat du pèlerinage à la Mecque organisé par la France.
Sur la terre africaine, la silhouette des minarets et des mosquées manifeste hautement combien la France a tenu au respect et à la protection des croyances et des traditions religieuses des peuples musulmans qui vivent à son ombre. En organisant, au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le premier pèlerinage de la Mecque qui ait eu lieu depuis 1939, elle a donné un nouveau témoignage de son respect de l'islam. Partie au milieu de l'allégresse d'une foule enthousiaste et reconnaissante, des centaines de pèlerins marocains auxquels s'étaient joints les fidèles venus de plus loin et de l'Afrique équatoriale même, le convoi spécial s'ébranlait vers Alger, où la masse des pèlerins africains, marocains et algériens devait prendre place à bord du navire frété spécialement par le gouvernement pour les conduire à la ville sainte. À Alger, une foule bariolée a empli les quais de débarquement. Les wagons laissent couler intarissablement le flot des pèlerins et de leurs bagages pittoresques. Et en attendant que s'opèrent, sous la direction des administrateurs français, les formalités de l'embarquement, une animation colorée, tranquille et heureuse emplit la gare maritime que cerne une foule de plus en plus dense venue assister au grand départ pour la terre sacrée. En dépit de la misère de l'après-guerre et de la pauvreté de ses transports maritimes sévèrement touchés par la guerre, la France a voulu mettre le plus beau navire de sa marine marchande au service du pèlerinage. L'Athos II, paré du Grand Pavois, allait embarquer les quelques 1300 pèlerins, 160 de l'Afrique noire, 560 du Maroc et 560 d'Algérie. Scène touchante. Toutes les classes, tous les âges se rencontrent ici. Le vieillard et l'infirme, l'enfant et l'homme mûr, le riche et le pauvre. L'élévation de la foi réussit ce miracle de mêler sans heurts dans la bonté et la joie, ces éléments dissemblables qu'anime à ce moment un seul désir, prier devant le tombeau du prophète. Et voici, témoignage particulier de l'attention du gouvernement français, voici le gouverneur général de l'Algérie, M. Yves Chataignaud, qui vient souhaiter bon voyage aux pèlerins.
Je suis fier et il m'est agréable de saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam, que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie.
Sylvia Chifolo, bonjour.
Bonjour.
Il s'agissait donc des actualités françaises données au cinéma en 1946. On imagine assez bien les images que ce commentaire accompagne. Et il y a là un temps d'époque, évidemment. C'est un moment spécifique de l'histoire que nous allons évoquer ce matin. Il y a beaucoup de joie, de ferveur, de bonté, de générosité des autorités coloniales.
Visiblement mise en scène, effectivement, dans ce film qui a été tourné en 1946 pour accompagner la procédure du pèlerinage. Un premier film avait été fait en 1940, celui-ci le complète, mais qui est en fait l'aboutissement d'une longue histoire qui, antérieurement, a été faite de beaucoup d'interrogations, de tergiversations de la part du pouvoir colonial. Une situation qui était beaucoup moins magnifique que celle qui est décrite dans ce reportage.
Qu'il y ait un certain embellissement, voilà, qui ne nous étonne pas. Ce que nous évoquons, c'est une permanence pluriséculaire avec de conjonctures particulières qui colorent l'événement d'une manière originale, chaque fois.
Chaque grande période de l'histoire du monde arabe et musulman a imprégné le pèlerinage à la Mecque, lequel évidemment remonte au tout premier temps d'islam et même antérieurement, puisque les rituels sont antérieurs au moment de l'islam, qui a récupéré en fait ce rituel et l'a retransformé sur des lignes de religieuses qui étaient les siennes. Et ensuite, effectivement, tous les pouvoirs musulmans qui se sont succédés ont pris en charge l'organisation de ce pèlerinage.
Ce pèlerinage qui a eu une formidable capacité d'adaptation, en somme, à toutes les évolutions de l'histoire des hommes depuis 1500 ans à peu près, y compris récemment les moyens modernes de communication, de circulation, qui contrastent si fort avec ce qui pouvait se passer au temps de l'Égypte, au temps des débuts de l'islam. Il faut d'ailleurs remonter même en arrière, puisque on est là, à la Mecque, dans un lieu qui abritait des dévotions pré-islamiques.
Absolument, les rituels datent de la période antérieure à l'islam. Ce sont ces mêmes rituels qui ont été effectivement repris par le prophète, qui ont ensuite perduré sur une version musulmane.
La fameuse Kaaba, la pierre noire, qui est au centre de la dévotion de la Mecque, existait auparavant et portait un culte antérieur.
Dans la perspective païenne qui était celle de la péninsule arabique antérieure à l'islam, c'était un des nombreux bétils de ces pierres qu'on vénérait.
Les bétils, oui.
Oui, et il y en avait d'autres. Voilà.
Volcanique.
C'est une pierre volcanique, oui, certainement, de la région. Et il y en avait d'autres, hein, d'autres dieux qui étaient représentés par ces pierres. Et il y en avait plusieurs qui étaient vénérés dans le cadre de la Mecque. Et c'est ensuite, évidemment, la transformation majeure de l'islam, c'est de l'avoir réservé au seul dieu.
Rappelez-nous alors la place de la Mecque, Sylvia Chifolo, rappelez-nous la place de la Mecque dans les origines de l'islam et dans l'histoire de Mahomet.
Bien, lui-même est originaire de cette ville. La tribu à laquelle il appartenait contrôlait précisément cette ville d'un point de vue économique et aussi justement sur toutes ces festivités et rituels qui avaient lieu et qui enrichissaient la ville puisque c'était un lieu de parcours de caravanes et donc on s'y arrêtait, on y réalisait des rituels. Effectivement, la Mecque demeure le point essentiel de la religiosité des musulmans.
Et c'est de la Mecque que Mahomet part vers Médine, l'Égypte, qui est au cœur de la religion aujourd'hui encore, en 622.
En butte avec à l'hostilité de certains membres de sa tribu, il quitte la Mecque, s'installe à Médine pendant 10 ans, et puis ensuite c'est lui qui finalement a le dessus sur ceux qui s'opposaient à sa prédication, et c'est ainsi qu'il peut revenir à la Mecque, reprendre possession de cette ville et de son importance religieuse, et qu'il donc habille de toute la religiosité musulmane qui est désormais dominante.
Ainsi se dessine une sorte de géographie sacrée qui est aux origines même de l'islam.
La Mecque devient centre du monde pour les musulmans, en effet, et donc chacun aspire à venir réaliser les rituels que le prophète a fixés en 632, l'année même de sa mort, définitivement. Ces rituels qu'il a réalisés cette année-là sont ceux qui sont toujours faits et refaits par chacun des pèlerins qui vient à la Mecque jusqu'à aujourd'hui.
Pèlerinage qui est un des 5 piliers de la foi musulmane.
Le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam auquel tout musulman qui en a les moyens, c'est-à-dire les moyens physiques et pécuniaires, doit se rendre.
Alors il faut que je vous transporte d'emblée au cœur de la Mecque, au cœur du pèlerinage. Je vous propose un extrait, c'est une lecture d'un texte de Slimane Zeghidour, qui est l'auteur d'une vie quotidienne, dans la fameuse collection des vies quotidiennes chez Hachette, Vie quotidienne à la Mecque, un livre de 2003. Je trouve qu'il nous donne assez bien à sentir ce que peut être l'atmosphère de ce pèlerinage. Je le dis d'autant plus que ni vous ni moi ne pouvons apporter de témoignages personnels, puisque seuls les musulmans ont l'attitude d'accéder au périmètre sacré dont nous parlons ce matin.
Me voici devant toi, mon Dieu, jaillissant de milliers de poumons. La clameur résonne avec une régularité de métronome. La foule tourne en spirale, et chaque fois qu'un pan de fidèle arrive au contact de la pierre noire, c'est un sursaut de ferveur qui soulève la grande mosquée. Encastrée à 1 mètre environ du sol, dans l'angle oriental de l'édifice, l'objet que tout bon musulman rêve de toucher au moins une fois dans sa vie, offre l'aspect d'un œil de poisson, une masse ovoïde en argent poli, avec au milieu un cratère sombre qui en serait la prunelle. Les fidèles ne vénèrent que le noir de l'œil, la pierre des pierres, la pierre noire. Ce petit bout de météorite de la taille d'un gros pain de campagne passe pour la pierre angulaire de l'univers. En l'embrassant, le croyant fait serment de fidélité à Dieu. Et au jour du jugement dernier, elle plaidera en sa faveur. En attendant ce jour J, le Tawaf ne doit jamais s'arrêter. Il ne connaît que 5 courts répits quotidiens, ceux réservés aux prières canoniques, ce second pilier d'un islam dont le Hajj est le 5e et l'ultime. Jour et nuit, hiver comme été, la roue des croyants doit tourner. Pas plus que ne s'arrêtent les eaux en mer, les fidèles ne peuvent se figer autour de la Kaaba. C'est l'horloge de l'Oumma, sa veille inlassable, les battements de son cœur. La rotation se déroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme si, en tournant à contresens, les fidèles cherchaient à remonter le cours du temps et à devenir, pour quelques tournées, les contemporains d'Adam et Ève, d'Abraham, d'Agar, d'Ismaël et de Mahomet.
Il s'agissait d'un texte de Slimane Zeghidour, extrait d'un livre qui s'appelait « La Mecque au cœur du pèlerinage » qui est paru en 2003, une lecture que j'emprunte à l'émission « Des paysages » de France Inter, dont le producteur était Philippe Bertrand, en cette année 2003. Restituez-nous, si vous le voulez bien, ce que pouvait être l'atmosphère de la Mecque au début du précédent millénaire, ou en tout cas vers les années 1200, 1300, 1400. Vous voyez déjà des pèlerinages somptueux. Je pense en particulier à celui du souverain du Mali en 1324, qui avait beaucoup impressionné les contemporains, Mansa Moussa, personnage, un roi très riche, et qui était venu dans un magnifique appareil. Alors on nous dit qu'à la Mecque, tous les musulmans se trouvent socialement mis sur le même niveau. Ce n'est pas vrai du tout, ça n'a jamais été.
Effectivement, les conditions du voyage sont forcément très différentes pour ceux qui sont riches et pour ceux qui sont pauvres. Alors, à l'époque médiévale, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la majorité des pèlerins, tous au départ, venaient par caravane, des caravanes elles-mêmes très riches, porteuses de présents pour les habitants de la Mecque, qui étaient accompagnées de ce qu'on appelle le mahmal, c'est-à-dire un magnifique palanquin brodé qui exprimait la puissance des autorités politiques de l'époque, qu'elles soient mamelouques, ensuite ottomanes. Et donc, effectivement, les caravanes présentaient un aspect de grand prestige. Ces caravanes étaient accompagnées d'une multitude de piétons qui, eux, n'avaient que leur petit baluchon avec quelques maigres affaires et un peu de farine pour faire le pain lors des haltes. Ces pèlerins de base, disons, étaient évidemment voyagés dans des conditions beaucoup plus précaires et difficiles, mais étaient suivaient les mêmes caravanes. En fait.
Les caravanes sont prestigieuses et d'une dimension, pour l'époque, assez prodigieuse. 10 000, 11 000 chameaux, parfois.
Oui, les caravanes du pèlerinage étaient particulièrement nombreuses. Bon, à l'époque, il y avait aussi des grandes caravanes commerciales qui étaient aussi très très nombreuses, mais celles qui portaient les pèlerins vers la Mecque étaient sans doute les plus prestigieuses, les plus longues. Certaines caravanes sont si longues qu'il y a une journée de marche entre la tête et la queue d'une caravane. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très impressionnant. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui voyagent dans ces caravanes, qui viennent donc de différentes villes, que ce soit de Damas, d'Irak, du Caire. Donc, ça fait près de 100 000 personnes qui, certainement, chaque année, bien qu'à l'époque, évidemment, il n'y ait pas de chiffres pour les comptabiliser de façon exacte, mais ce sont évidemment déjà des mouvements de foule très impressionnants qui accompagnent accompagnent les caravanes.
Donc le départ des caravanes de Damas ou du Caire sont entourés chaque année de festivités assez grandioses.
Très importante, toutes les villes sont mobilisées autour de ce moment très très important de l'année du calendrier musulman. Il y a beaucoup de cérémonies officielles, mais aussi de fêtes populaires qui entourent le départ de ces caravanes. C'est pour chaque individu qui part évidemment un moment extrêmement précieux, et aussi pour tout son entourage, sa famille qui le voit partir. Donc il y a une véritable émulation de joie autour de ce départ, et de l'arrivée bien sûr.
Alors ils marchent inlassablement ces pèlerins, en se livrant à des jeux poétiques, en récitant des prières. Cela évoque un peu aussi Chaucer au Moyen-Âge, le grand poète britannique.
Le pèlerinage a donné lieu à une création poétique extrêmement importante, hein, les crasidas, ces pèlerins qui s'accompagnent de récitations de poésie improvisées ou récitées, qui forment vraiment le fond sonore en fait de ce déplacement.
Et sur ces vastes territoires, quelles sont les relations avec les tribus bédouines qui se sentent chez elles ?
Alors elles sont chez elles, et d'ailleurs elles entendent bien contrôler ces circulations, et en fait il y a tout un système économique qui permet de donner des subventions à ces tribus pour acheter en fait la tranquillité de la caravane, c'est-à-dire qu'elles sont porteuses d'une soura, donc d'un trésor qui est distribué au fur et à mesure de l'avancée de la caravane aux différentes tribus qui occupent les territoires traversés, de façon à ce qu'ils laissent passer la caravane sans l'attaquer. Mais il y a aussi parfois des moments où les caravanes sont effectivement attaquées.
Je voudrais que vous nous aidiez à comprendre ce qu'a été dans cette période, notamment du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, la géographie de l'accès à la Mecque. Les routes sont très variées, forcément, de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Comment est-ce qu'on vient à la Mecque si on est un pèlerin vers 1300, 1400, 1500 après Jésus-Christ? Je reste dans le calendrier chrétien.
Alors, ça dépend d'où on vient, mais généralement, on vient à pied, donc, par caravane, que l'on vienne, effectivement, du Maghreb lointain, de l'Égypte, de la Turquie, de Damas, de l'Irak, etc. Ce sont des grandes caravanes, donc, qui partent des principales villes de l'islam. La caravane des Maghrébins traversait à pied l'Afrique pour rejoindre les Égyptiens au Caire. Donc là, formait une caravane immense qui se dirigeait vers la Mecque, par la voie terrestre, donc en traversant le Sinaï.
Et comment est-ce qu'on vient de ce qui a été ensuite l'Afrique équatoriale ou l'Afrique occidentale française?
Traditionnellement, et jusqu'à une date très tardive, les Africains, alors certains joignent des caravanes, certains forment des caravanes, comme le cas de Moussa que vous évoquiez tout à l'heure, mais la plupart des Africains partent pour des voyages qui durent parfois plusieurs années et qui entreprennent une longue traversée de l'Afrique pour se rendre à la Mecque. Ils s'arrêtent parfois plusieurs mois, plusieurs années pour arriver à trouver les moyens nécessaires pour continuer leur voyage. Pour les Africains, ça a souvent et longtemps été une affaire très individuelle de départ et de traversée de l'Afrique à pied.
De cela témoigne une archive que je vais vous faire entendre, qui est due à un journaliste, Jean Périgaud, interrogé par Pierre Fromentin, et qui raconte ses souvenirs d'un pèlerinage de musulmans venus de l'Afrique occidentale française en 1935. C'est une émission de septembre 1951 dans l'Union française, collection de Pierre Ichac.
Je crois, Jean Périgaud, si mes souvenirs sont exacts, que vous avez rencontré en mer Rouge des pèlerins de l'Afrique occidentale française qui étaient venus à pied jusqu'à la côte de l'Érythrée.
C'est exact. C'était en 1935, à une époque où, pourtant, nous mettions déjà des paquebots à leur disposition au départ de Dakar. Nous étions vers la mi-août, et je me trouvais alors dans le port de Massawa, environ 6 semaines avant la déclaration de guerre de l'Italie à l'Éthiopie. Ce fut le gouverneur italien de Massawa qui me signala la présence de 3 indigènes, se disant français, et prétendant avoir mis 3 mois à traverser l'Afrique, ce qui était relativement peu. Nous nous rencontrâmes dans une très misérable auberge de Massawa. Il s'agissait de 3 mossis du cerf de Ouagadougou, qui en étaient partis fin avril, à pied, en camion, en pirogue, charitablement hébergés dans les villages selon la tradition. Ils avaient gagné le Tchad, mais des 4 qu'ils étaient au départ, il n'en survivait que 3. 3 quand ils atteignirent le Darfour, au Soudan anglo-égyptien. Le 4e avait été mordu par un serpent et était mort. À El Fasher, les autorités britanniques les mirent de force dans le train qui traverse toute la colonie pour aboutir à Port-Soudan via Khartoum. Mais leur esprit de mortification était tel qu'ils lâchèrent le chemin de fer dès que celui-ci eut atteint le Nil Bleu à 300 km au sud de Khartoum. Et ce fut à pied qu'ils pénétrèrent en Érythrée dans un territoire montagneux extrêmement difficile et dont ils ne comprenaient pas un mot de la langue. Et chose plus grave, sans autre argent que des billets de banque de l'Afrique occidentale française et quelques pièces de 5 francs en argent. Après avoir traîné pendant une bonne quinzaine dans les ruelles humides et chaudes de ce port qui est situé, paraît-il, à l'équateur thermique, ils eurent la chance inespérée, de trouver un passage sur un boutre qui emmenait les pèlerins érythréens au Hedjaz. Là s'arrête mon information. Je suppose qu'ils ne furent pas rançonnés par des pirates en cours de traversée, comme cela arrive de temps en temps, et qu'ils parvinrent sains et saufs à la Mecque. Mais il est un fait dont je suis sûr. Ils renoncèrent certainement à rentrer à pied en Haute-Volta, et je gage que notre paquebot de pèlerins eut cette année-là 3 passagers supplémentaires que l'on devait entourer de tous les respects à son bord entre Jeddah et Dakar, car ceux-là avaient vraiment mérité le vénérable titre de Hadji.
Le serpent qui a tué un des 4 pèlerins incarne assez bien, me semble-t-il, Sylvia Schifolo, tous les dangers d'un voyage tel qu'il pouvait être vécu à l'époque.
Oui, ce serpent, effectivement, symbolise tous les dangers d'un voyage long, difficile, où on rencontre le danger des animaux, la fatigue, l'usure, et aussi des épidémies, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Et pour ceux qui viennent de l'Orient, est-ce que c'est aussi difficile, je pense, ceux qui viennent de Boukhara, qui passe par Bagdad.
Depuis l'Asie centrale, le voyage s'est fait longtemps aussi par caravane. Alors ceux qui viennent d'un Orient plus lointain, c'est-à-dire de l'Inde et de l'insulinde, c'est-à-dire de l'actuelle Indonésie, pendant longtemps ils utilisaient des voiliers, ils dépendaient donc des vents de mousson, donc le voyage était très très long, parfois duré une année parce qu'il fallait donc profiter des vents de mousson pour repartir à la bonne saison, donc on restait des mois durant à la Mecque avant de pouvoir repartir. La navigation à vapeur a donc transformé ensuite ce type de voyage par voilier.
La grande différence par rapport à notre époque, c'est en effet le rythme de ces pèlerinages.
Les temps de voyage sont considérablement réduits et de séjour sur place, puisque aujourd'hui on reste en moyenne 3 semaines sur place. Le voyage se fait en avion, donc évidemment en quelques heures. Alors que, effectivement, pour les pèlerinages d'autrefois, l'absence se comptait en mois, parfois en années. Donc c'était effectivement une entreprise énorme, centrale dans le cours d'une vie.
Ceux qui viennent de l'Occident s'arrêtent au port de Jeddah, qui est un port d'ailleurs assez difficile d'accès, le port qui conduit vers la Mecque. Je voudrais que vous nous décriviez ce qu'est ce rituel, concrètement, géographiquement, sur place, à la Mecque, entre les différents lieux sacrés. Cela intervient toujours à un moment particulier du calendrier musulman.
Absolument, ce sont des dates fixes, qui sont du 8 au 12 Dhu-el-Hijja, donc le dernier mois du calendrier musulman.
5 jours.
5 jours, et donc qui obéit à un rythme extrêmement codifié. Donc effectivement, tous les rituels se réalisent sur un temps très bref. Le premier d'entre eux, c'est le tawaf, c'est-à-dire ce mouvement circulaire, cette fois autour de la Kaaba.
Donc nous avons dit que c'était la pierre noire sacrée.
Voilà, qui abrite la pierre noire. Il y a aussi cette circulation entre deux monticules, Safa et Marwa, qui s'appelle le Saï et que les pèlerins réalisent aussi à cette reprise. On consomme de l'eau sacrée du puits de Zamzam qui se trouve donc dans le sein de la mosquée sacrée. Puis ensuite, on se déplace vers Arafat, une localité qui se trouve à une 20 kilomètres de la Mecque, où les pèlerins doivent faire le wukuf, c'est-à-dire ils doivent se tenir sur ce monticule, sur cette petite montagne ou à son pied. Et c'est ça qui est le moment le plus important du pèlerinage, c'est ça qui valide en fait le pèlerinage.
Donc, témoins disent que c'est un moment particulièrement émouvant, avec le sentiment d'une communauté exprimant concomitamment la même prière.
Absolument, c'est ce moment-là où les pèlerins sont saisis de l'émotion d'appartenir à cette Oumma, cette communauté des croyantes, où tous les témoignages convergent vers ce sentiment très fort.
Et Tahar Ben Jelloun, le prix Goncourt, l'écrivain marocain, l'a raconté en termes très frappants dans un de ses livres.
L'ethnologue marocain Abdallah Hamoudi aussi a fait un beau livre, Une saison à la Mecque, qui évoque justement tous ces pèlerinages, lui aussi en tant que musulman. Au coucher du soleil, on doit quitter cet endroit. On passe par Mouzdalifa, qui est donc à mi-chemin en fait entre Arafat et Mina. On ramasse des petits cailloux qui vont servir ensuite à la lapidation des stèles de Satan. En fait, on reproduit le geste d'Ismaël qui a lapidé Satan à cet endroit-là. Donc il y a 3 stèles, il y a le grand Satan et puis 2 stèles plus petites. Donc on finit les 3 derniers jours du calendrier qui correspond à l'Aïd al-Hada, c'est-à-dire le rituel du sacrifice que les musulmans réalisent partout. Et donc il se fait ici à Mina pour les pèlerins, donc sacrifice d'un mouton. Là, il y a eu cet épisode du mois de septembre dramatique. Mais en fait, ça a toujours été un moment difficile du pèlerinage où il y a toujours eu une presse, un encombrement, justement précisément à cet endroit-là. Les archives regorgent de récits, d'accidents, de piétinements à cet endroit.
Ce n'est pas donc uniquement lié à l'augmentation considérable du nombre de pèlerins qui, à travers le 19e et le 20e siècle, a énormément augmenté. On nous dit qu'il n'y en avait que 100 000 avant la Seconde Guerre mondiale. On est passé à 380 000 dans les années 80 et aujourd'hui, on dénombre entre 2 et 3 millions de pèlerins. 2 et 3 millions.
Oui, absolument.
On comprend que pour les autorités saoudiennes, il soit difficile de gérer ces foules et d'empêcher à certains moments des phénomènes de panique collective.
Oui, et pourtant, il y a des aménagements importants qui ont été réalisés justement autour de cet endroit qui est un endroit à problème. Il y avait eu un autre accident de ce type en 2006. Et donc, depuis 2006, a été construit une espèce de gigantesque bâtiment qui abrite des stèles qui n'ont plus rien à voir avec celles qui étaient présentes au début du XXe siècle, pour essayer justement de canaliser et d'organiser les déplacements de foule. Mais donc, en dépit de ces aménagements, les accidents, comme on a pu le voir, restent possibles.
On a beaucoup agrandi aussi la grande mosquée.
Oui, les travaux en cours sont très très importants. Elle devrait pouvoir accueillir 2 millions de pèlerins, donc ce qui est pour un bâtiment unique une performance impressionnante.
C'est gigantesque, oui. Pourquoi cette augmentation au fond? Il y a d'abord probablement les progrès de la démographie, donc du nombre de musulmans sur la planète, l'augmentation des classes moyennes peut-être qui peuvent se permettre de s'offrir le voyage, le transport aérien aussi, et puis peut-être un renouveau de la pratique religieuse, non?
L'augmentation du nombre des pèlerins, on le remarque effectivement depuis les années 30, depuis les années 1930, puisque justement au moment où il y a eu une amélioration des conditions de vie qui ont permis à des classes plus aisées de pouvoir prendre plus facilement le chemin de la Mecque, phénomène qui n'a cessé évidemment de s'accuser depuis lors. Les candidats au pèlerinage sont toujours plus nombreux, tellement nombreux d'ailleurs que l'Arabie Saoudite s'est vue contrainte d'imposer des quotas à chaque pays pour limiter justement l'afflux de pèlerins, pour pouvoir continuer à pouvoir gérer au mieux l'accueil de ces pèlerins.
C'est évidemment fort discuté. Tant de milliers pour tant de millions de fidèles.
C'est ça, c'est un millier de pèlerins pour un million de fidèles.
Donc la chance de pouvoir être sélectionné, soit par le choix des autorités du pays auquel on appartient, soit par tirage au sort, cette chance est limitée.
Différents pays ont mis au point des systèmes un peu différents. Il y a des listes d'attente. Par exemple, en Indonésie, il faut attendre à peu près 6 ans. Dans certains pays du Maghreb, il y a des systèmes de tirage au sort pour pouvoir arriver à contenter tout le monde.
Des questions qui ne se posaient pas jusqu'au mi-temps, en tout cas du XXe siècle. Je vais vous faire entendre un texte de 1927 qui évoque l'atmosphère de la Mecque au moment du pèlerinage. C'est un texte anonyme, mais que je trouve parlant. Il a été diffusé dans La matinée des autres de Geneviève Ladouès et de Michel Cazenave le 19 septembre 2000 sur France Culture, naturellement.
Dans les rues de la Mecque en 1927. Et toujours encore passer des gens de toutes sortes, de toutes tenues et de toutes physionomies, avec turban ou nu-tête, certains marchant en silence, avec parfois un rosaire à la main, d'autres courant d'un pied léger à travers les foules. Les corps souples et bruns de Somalie luisaient comme du cuivre entre les plis de leurs robes pareilles à des toges. Il y avait des Arabes des hautes terres de l'intérieur à la stature svelte, au visage étroit et à l'allure fière. Des Ouzbeks de Bokhara à la forte ossature et qui, même dans la chaleur de la Mecque, gardaient leurs caftans ouatés et leurs bottes leur montant aux genoux. Des Javanaises en sarong, au visage ouvert et aux yeux en amande. Des Marocains à la démarche lente et pleine de dignité dans leur burnous blanc. Des Mécois en tunique blanche ayant sur la tête une calotte ridiculement petite. Des Indiennes, enveloppées de façon si impénétrable dans leur burqa blanche qu'elles semblaient être des tentes ambulantes. De grands noirs foulatas de Tombouctou ou du Dahomey en robe indigo et au calot rouge. De petites dames chinoises, pareilles à des papillons brodés, trottinant sur des pieds menus, ressemblant à des sabots de gazelle. Dans ce tohu-bohu, on criait et l'on se poussait dans tous les sens et cela donnait l'impression d'être plongé dans des vagues en train de se briser dont on apercevait quelques détails sans jamais pouvoir en distinguer l'ensemble. Tout flottait dans un brouhaha de langues diverses, accompagné de gesticulations excitées lorsque, soudain, nous nous sommes trouvés devant l'une des portes du haram, la mosquée sainte.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ce texte est lu ici par Geneviève Ladouès. Un texte évocateur, Sylvia Schifolo, de ce que pouvait être l'ambiance dans ces années-là, voici à peu près, disons, 70 ans, à la Mecque.
Bien antérieurement aussi, et puis toujours aujourd'hui, puisque effectivement la Mecque, c'est le rassemblement de gens, de musulmans qui viennent du monde entier, donc d'univers très différents. Et à la fois, c'est effectivement un lieu de réalisation de la Oumma, d'un ensemble, mais aussi un lieu où apparaissent toutes les différences entre les nations.
La Oumma, c'est-à-dire
La communauté des croyants, l'ensemble des musulmans, mais aussi qui est donc effectivement constitué de gens qui viennent de traditions et de cultures très très différentes et qui se rassemblent dans ce creuset qu'est la Mecque, et chacun observe l'autre. Alors il y a aussi des stéréotypes qui naissent. Certains pèlerins, par exemple les Indonésiens, ont la réputation d'être particulièrement dociles. Par contre les Bouhariotes, c'est-à-dire les gens d'Asie centrale, ont la réputation, comme les Marocains, d'être des gens un peu plus violents et difficiles. Voilà, chacun, il y a des stéréotypes qui sont attachés à chaque nationalité, alors même que certaines ne sont pas nées encore.
Il y a aussi l'impression que ce sont souvent des ruraux qui viennent investir un espace urbain.
Des ruraux, oui, beaucoup, évidemment, mais pas seulement, parce qu'il faut quand même avoir un peu de moyens pour venir à la Mecque, hein, quelle que soit l'époque. Donc ce sont souvent ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de petite classe moyenne urbaine, et les ruraux, effectivement, qui viennent investir cette ville, qui à l'époque, évidemment, n'avait pas du tout la physionomie qu'on a décrite tout à l'heure, mais qui est restée une ville très traditionnelle, dont il ne reste pratiquement plus rien du tissu ancien de la Mecque.
On a vu surgir des tours destinées à avoir un rôle hôtelier, qui ont dominer maintenant la grande mosquée.
Oui, absolument.
Ça, c'est pierre noire.
Une volonté de l'Arabie Saoudite que d'accueillir au mieux les pèlerins. Il faut savoir que autrefois, effectivement, les conditions de logement étaient souvent très précaires. On dormait sous la tente ou encore simplement sur un trottoir au coin de la rue, dans un café. Depuis la manne pétrolière, grâce à laquelle l'Arabie Saoudite peut déployer un véritable effort d'équipement, donc il y a ces constructions de gigantesques hôtels comme celui qui surplombe effectivement aujourd'hui la grande mosquée, mais qui aussi, je pense, finit par trier socialement les pèlerins, puisque le coût du logement dans ces hôtels doivent être assez prohibitif.
Il a fallu longtemps pour qu'en Occident on comprenne vraiment ce qui se passait à la Mecque, parce qu'il n'y avait pas par définition de voyageurs chrétiens. L'imaginaire a pu se développer, hein. Il y a même un moment où on invente que Mahomet pourrait être dans un cercueil suspendu.
Les lieux saints de l'islam étant interdits aux non-musulmans, il n'y a pas d'informations directes qui parviennent. Et puis pendant longtemps, un désintérêt total, évidemment, de la part des Européens qui n'avaient pas finalement à avoir affaire à ce pèlerinage.
Sauf que, évidemment, Voltaire pouvait broder en pure imagination dans sa pièce sur Mahomet. Où il y a aussi une pièce de Le Sage en 1726 qui s'appelle « Les pèlerins de la Mecque ». Comme on ne savait pas grand-chose, on pouvait laisser la bride sur le cou à toutes les imaginations.
Absolument, là on est effectivement dans l'époque des Turqueries où on imaginait plus qu'on ne savait. Le pèlerinage à la Mecque, comme tout phénomène oriental, a suscité l'intérêt des artistes et des créateurs européens, sans qu'ils n'en sachent rien, bien entendu. Il y avait quand même quelques voyageurs européens qui avaient pu pénétrer dans le territoire sacré et en ramener quelques récits, mais c'était évidemment très peu diffusé à l'époque.
C'est au 19e qu'on commence à faire vraiment du voyage en islam un genre littéraire, et que les premiers voyageurs y pénètrent. Et puis aussi, il y a l'invention de la photographie qui joue un rôle important.
Burckhardt et Burton, qui ont été les grands voyageurs déguisés en musulmans, ont pénétré au sein, par effraction, enfin, en quelque sorte, au sein du territoire sacré, en ont rapporté des récits qui ont eu pour le coup un large écho en Europe.
Ludwig Burckhardt, 1814.
Voilà, et Burton, c'est en 1853. Donc là, on a commencé à en savoir un peu plus. Et puis, effectivement, après, c'est la photographie qui a pu rendre compte aussi de ces lieux, qui ont été assez, finalement, largement photographiés, en dépit donc de la méfiance que l'islam nourrit envers l'image. On voit bien qu'effectivement, il y a quand même des réalisations, des mises en image, y compris d'un lieu aussi sensible que la Mecque.
D'ailleurs, dans votre livre, Le voyage à la Mecque, vous nous donnez un petit ensemble de photographies qui témoignent de ça, et aussi de dessins, en dépit de la méfiance que vous dites de la religion musulmane à l'égard des images. Du côté perse en particulier, les artistes ont assez largement évoqué l'ambiance de ces pèlerinages à l'époque que nous appelons moderne.
Il y a beaucoup de représentations en réalité du pèlerinage, des représentations très codifiées qui tournent autour effectivement des monuments religieux, etc. Alors que la photographie apporte justement une vision plus humaine, en fait, plus axée sur la quotidienneté de cette séquence religieuse.
La première photographie remonte à 1861, nous dites-vous.
C'est un panorama de Médine, la toute première photographie, qui a été prise par Sadiq Bey, donc qui était un cartographe égyptien dans la péninsule arabique, qui a fait la première photographie, effectivement, de Médine.
Alors évidemment, il y a une nouveauté majeure au XIXe siècle qui va commencer de changer la nature, l'apparence et peut-être la réalité profonde de ce pèlerinage à la Mecque dont nous parlons ce matin, c'est le développement de la marine à vapeur.
Oui, qui change considérablement les conditions du voyage, puisque les grandes caravanes cèdent le pas. Le voilier, évidemment, disparaît aussi. Donc, les grandes traversées qu'on évoquait tout à l'heure sont remplacées donc par de gros bateaux à vapeur qui apparaissent dès les années 1840, mais qui prennent une ampleur importante à partir des années 1870, après justement l'ouverture du canal de Suez, qui permet aussi un passage plus aisé en direction de la péninsule arabique. À partir de ce moment-là, les caravanes se maintiennent jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais vraiment réduites à un petit noyau officiel, alors que la plupart des pèlerins prennent désormais donc les moyens de transport modernes, les gros bateaux à vapeur, mais aussi les trains pour rejoindre les ports d'embarquement. Donc il y a une véritable révolution des transports qui s'opère sur le pèlerinage à la Mecque.
Alors évidemment, la promptitude nouvelle des voyages et l'augmentation du nombre des pèlerins vient poser un problème majeur qu'on a pu connaître antérieurement, mais qui devient beaucoup plus intense, c'est la question sanitaire. Vous êtes d'ailleurs vous êtes spécialiste, Sylvia Schifolo, de l'histoire des médecins, de la médecine, de l'Organisation internationale de la santé. Ces épidémies sont neuves et inquiètes à partir de l'épidémie du choléra 1831 notamment.
L'intérêt que je porte à la santé qui m'a amené à m'intéresser au pèlerinage à la Mecque, qui est effectivement le grand redistributeur des épidémies au XIXe siècle. Alors les premières épidémies, le choléra donc apparu, sorti de son berceau d'origine en 1831 et ayant provoqué la première pandémie, les premières épidémies ne sont pas reliées directement au pèlerinage, bien que chaque fois le pèlerinage ait été considérablement dévasté par ces épidémies. Mais à partir de 1865, ce qui change, c'est que pour la première fois, le choléra pénètre dans l'ensemble du monde, et en particulier en Europe, dans les pas des pèlerins de retour du pèlerinage. Et donc, à partir de ce moment-là, le pèlerinage est considéré comme le lieu et les pèlerins le groupe à risque concernant les épidémies et donc va attirer l'intérêt et le travail de la communauté internationale naissante.
Beaucoup de morts. Je vois qu'en 1865, l'épidémie du choléra, qui a inquiété également en Europe, mais qui s'est concentrée surtout dans ces régions, a provoqué la mort d'un tiers des pèlerins.
Oui, absolument. En 1865, c'est aussi un tiers des pèlerins qui ont été décimés dans une épidémie suivante en 1893. Donc, vous voyez, très tardivement au 19e siècle. Donc, effectivement, le rassemblement de foule rend la Mecque particulièrement vulnérable. Dès qu'il y a une épidémie, les dégâts sont énormes, d'autant que les services sanitaires sont très en deçà, évidemment, des besoins pour une telle foule.
Ce n'est pas non plus dépassé entièrement, puisqu'on s'est beaucoup inquiété des effets possibles, des menaces sanitaires qui viennent hanter, en fait, le pèlerinage, que ce soit le SRAS, vous savez, le syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, ou bien le virus HN en 2009, ou le coronavirus en 2013, et encore Ebola en 2014. C'est un aspect très, très important du point de vue, non pas religieux, mais du point de vue sanitaire de ces pèlerinages de la Mecque. Et naturellement, avec les moyens modernes de circulation en bateau et en avion, un risque d'expansion, de diffusion du virus bien ailleurs. C'est vrai, par exemple, pour l'Europe et même pour les États-Unis d'Amérique.
La menace épidémique demeure, évidemment. La Mecque reste un lieu d'observation étroit. Donc, les autorités saoudiennes ont en charge la sécurité sanitaire du pèlerinage, mais l'OMS veille, et chaque année, il y a des consignes particulières pour le pèlerinage. Et cette année, effectivement, on était un peu à l'affût de ce qui allait se passer autour du coronavirus, de nouveau. Et puis, finalement, ce sont les accidents qu'on a eu à déplorer, mais la vigilance était de mise par rapport à la question du coronavirus.
L'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, descend, en fait, très directement des conférences sanitaires qu'on a connu au XIXe siècle, à la suite de l'épidémie de 1865. Il y a eu une conférence sanitaire à Constantinople, qui est marquée par un esprit assez colonial, évidemment, et de supériorité condescendant des peuples européens sur les autres.
Depuis le début du XIXe siècle, les Européens avaient déterminé que les épidémies étaient une menace qu'ils avaient en commun et qu'il fallait donc mettre en commun des politiques. Et c'est donc la première politique coordonnée au niveau international. Et la première conférence a eu lieu en 1851. Il y en a eu une deuxième en 1859. À ce moment-là, donc, le pèlerinage n'apparaissait pas en tant que tel. C'était la menace épidémique générale. Et puis, à partir de 1865, c'est effectivement le pèlerinage qui devient un des enjeux majeurs de ces réflexions internationales. Comment faire pour protéger l'Europe de l'éventuelle progression d'une épidémie à partir du pèlerinage, puisque le choléra, le berceau de la maladie est en Inde, au Bengale, et donc évidemment il y a beaucoup de musulmans indiens qui viennent à la Mecque, et c'est de cette façon-là que le risque de contamination peut se réaliser, et ensuite donc les épidémies poursuivent leur route vers l'ensemble des continents du monde.
Il y a eu aussi la peste, oui, qui a fait son apparition à Bombay, en septembre 1896. Donc une menace vraiment récurrente à travers le temps.
Le choléra était la maladie dominante tout au long du 19e siècle. Et puis à la fin du 19e siècle, réapparaît en effet la peste et qui vient là aussi menacer le pèlerinage. Et au-delà, évidemment, on connaît la dernière pandémie de peste qui est allée jusqu'à Paris et ailleurs en Europe.
La peste comme au Moyen-Âge, comme il est dit dans notre générique par la voix de Tommy Franklin.
Oui, oui, absolument. Sauf qu'à cette époque-là, elle est beaucoup moins meurtrière que dans des époques antérieures.
Nous sommes déjà parvenus à l'époque coloniale. Sylvia Schifolo, qui va organiser ce pèlerinage, ou en tout cas peser sur lui d'une façon particulière. Il y a deux périodes d'inquiétude majeure des colonisateurs, la période où ils redoutent le panislamisme et ceux où ils s'inquiètent de l'essor du nationalisme en tant que tel. Et on voit très bien ces deux moments qui scandent une histoire qui est marquée par un certain paternalisme, c'est incontestable. On le sentait déjà dans l'archive des actualités françaises que je vous faisais entendre au début. On l'éprouve aussi dans cette autre archive radiophonique, qui est une correspondance de Jacques Delalande à Alger sur le départ des pèlerins algériens pour la Mecque, avec une intervention d'un des hauts fonctionnaires d'Alger, qui est Lucien Peille. On est à Paris Inter le 3 juillet 1956.
Prenant la parole au nom des pèlerins, le directeur du convoi, importante personnalité du culte musulman en Algérie, a déclaré.
Depuis sa présence en Algérie, la France encouragea les musulmans à s'acquitter de cette obligation et mit tout en œuvre pour leur confort et leur sécurité au cours du voyage, de façon à leur épargner peine et fatigue. Elle alla plus loin dans sa générosité à leur égard. Et dans son respect pour leurs sentiments et pour cette manifestation de la foi musulmane, elle maintint la décision d'un chef des pèlerins. C'est là un geste pour lequel elle mérite un grand hommage.
Puis, c'est M. Lucien Peille, directeur général des affaires politiques et de la fonction publique au gouvernement général, représentant M. Robert Lacoste, ministre résident, qui s'est adressé aux pèlerins musulmans.
En Algérie, Islam et Occident ont un long passé d'amitié et de coopération au cours duquel chaque communauté s'est enrichie dans une confrontation des différences mutuelles. C'est pourquoi nous-mêmes, nous participerons par la pensée à votre radieux voyage et notre affection vous accompagnera. Pèlerins de toutes conditions, confondus et unis par le même idéal, vous allez gagner les lieux saints de l'islam. À votre tour, vous prendrez l'ihram comme le symbole de cette purification de l'âme à laquelle s'appliquent l'honnête homme et le croyant. En vous souhaitant un heureux voyage, j'exprime le vœu qu'autour de vous, là-bas, comme à votre retour parmi nous, vous aidiez à la propagation de la paix dans les cœurs et soyez les artisans dans ce pays d'une communauté fraternelle, s'inspirant d'un idéal de libre coopération en vue d'une nécessaire ascension sociale, économique et culturelle.
La paix dans les cœurs, la communauté spirituelle, on peut rappeler que cette allocution intervient près de 2 ans après les débuts de la guerre d'Algérie. En juillet 1956.
Oui, et au moment où la Tunisie et le Maroc quittent l'escarcelle coloniale française. Donc c'est effectivement un moment symbolique fort pour tenir les rênes de ce qui reste de l'empire colonial français, pour en mettant en avant justement cette bienveillance des autorités coloniales à l'égard de leurs sujets musulmans, en autorisant le pèlerinage à la Mecque, en le facilitant, en lui offrant des conditions, de bonnes conditions de voyage. Mais il faut se nier que ça n'a pas toujours été le cas, et que ce n'est que effectivement l'aboutissement de politiques un peu désordonnées qui sont nées avec la colonisation.
Certains parlaient d'une double contagion sanitaire et politique. À l'époque, oui, où Adrien Proust, le grand médecin, le père de Marcel Proust, pensait qu'on est à la fin du 19e siècle, qu'il fallait tout simplement interdire le pèlerinage pour des raisons sanitaires.
La métaphore de la contagion a été très très largement utilisée, puisque, donc on l'évoquait tout à l'heure, il y a un véritable problème sanitaire autour du pèlerinage à la Mecque. Donc cette métaphore est mobilisée pour évoquer aussi une autre crainte des puissances coloniales, c'est que les sujets coloniaux n'aillent contaminer d'un discours subversif au sein de la Mecque, où se retrouvent, comme on le disait tout à l'heure, des musulmans du monde entier, certains qui sont sous contrôle colonial, d'autres qui sont libres et qui peuvent donc entraîner leur corps religionnaire vers une aspiration à la liberté.
pendant un certain temps, pour se protéger contre ce risque de contamination politique des pèlerins à la Mecque, l'administration coloniale française a souhaité passer par le truchement de la société des Habous pour les lieux saints de l'islam.
Alors cette société a été fondée pendant la Première Guerre mondiale, dans un premier temps pour faire l'acquisition d'une hôtellerie à la Mecque qui permettrait d'héberger les pèlerins, à qui a été confiée ensuite dans les années 20 l'organisation du pèlerinage. Mais en fait, cette phase intervient après une autre période qui, elle, est dominée par l'interdiction, c'est-à-dire que l'interdiction pure et simple du pèlerinage, de façon récurrente à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale. En avançant des raisons sanitaires, les autorités coloniales françaises interdisaient le pèlerinage à la Mecque pour protéger les pèlerins, pour qu'ils n'aillent pas se contaminer à la Mecque, mais en réalité pour faire en sorte qu'ils n'aillent pas se contaminer par un discours panislamiste qui était craint de la part des autorités coloniales.
On mettait le professeur Adrien Proust en avant pour protéger des motivations, selon vous, qui étaient d'une autre nature, qui étaient plus politiques que de santé publique, c'est ça?
Sa décision était très importante et lui-même était assez effectivement hostile au pèlerinage pour des raisons sanitaires. Et sa voix qui faisait autorité, entraînait ensuite l'interdiction du pèlerinage par les autorités coloniales en Algérie puis en Tunisie.
Il n'est pas indifférent à la lumière de nos préoccupations d'aujourd'hui, notamment les menaces de l'islamisme, de considérer qu'à l'époque... Au XXe siècle, il y a eu des politiques assez différentes des diverses puissances coloniales. Les Hollandais, les Anglais n'ont pas eu forcément le même comportement que les Français, Sylvia Schifolo.
Oui, les Français étaient les plus sévères de ce point de vue-là. Les Hollandais et les Anglais, les Britanniques, pour les pèlerins indiens, étaient contrôlés le pèlerinage, bien sûr, mais n'ont jamais interdit le pèlerinage à leurs ressortissants. Les Néerlandais avaient la réputation d'être particulièrement organisés. Ils mettaient un certain nombre de conditions financières au départ des pèlerins. C'est-à-dire qu'on obtenait son passeport de départ que si on pouvait faire la preuve qu'on avait l'argent nécessaire pour faire le voyage aller-retour. Ils mettaient à disposition des pèlerins des bateaux plutôt bien équipés. Les Anglais, par crainte que les musulmans d'Inde ne se révoltent contre des mesures administratives qui tendraient à restreindre les départs, laissaient le champ libre sans obliger à avoir des conditions de ressources au départ. Donc on pouvait partir avec un billet aller simple, par exemple, pour le pèlerinage, ce qui posait des problèmes d'ailleurs pour le retour, puisque certains pèlerins indiens partis sans précaution se retrouvaient coincés au Hijaz. Et là, les autorités coloniales devaient prendre en charge leur rapatriement en Inde.
Il y a une date importante du côté britannique, c'est la révolte des Sipayes en 1857 qui a conduit la puissance coloniale à adopter une politique libérale en fait.
Absolument, par crainte justement de révolte si les musulmans percevaient que le contrôle administratif pouvait constituer une entrave au départ.
Tout en s'inquiétant du fait que le pèlerin pourrait rentrer, c'est une circulaire de l'époque, plus fanatique qu'il n'était parti.
C'est une circulaire française, là, effectivement. Il y a une véritable crainte de fanatisation, hein, qui était le terme, ou de contamination panislamique des pèlerins au sein du territoire sacré.
Oscillation donc intéressante entre la politique qui consiste à dire n'y allez pas et celle qui consiste à dire nous respectons votre foi, vous y allez et peut-être cela évitera sur place dans les colonies des révoltes potentielles contre des limitations imposées.
La France a fini par aussi rejoindre cette vision des choses, effectivement, après avoir été extrêmement réticente et avoir multiplié les interdictions après la Première Guerre mondiale, parce qu'il était à cette époque-là effectivement difficile de pouvoir imposer encore de telles interdictions. Il y a effectivement là une politique presque inverse qui consiste au contraire à prendre en charge d'abord donc par le biais de la société des Habous des lieux saints de l'islam et ensuite directement par l'organisation directe d'un convoi officiel par les autorités coloniales. Et c'est ce convoi officiel qu'on voit apparaître dans les extraits qu'on a entendus. Donc là, à partir de la fin des années 20 et surtout des années 30, c'est vraiment un pèlerinage étroitement organisé par les puissances coloniales et donc qui s'appuie sur cette organisation pour gagner en légitimité auprès des populations musulmanes.
Du côté français a joué un rôle aussi l'influence probablement d'un certain nombre d'intellectuels arabisants qui ont amené l'opinion publique, en tout cas les élites politiques, à prendre en compte des spécificités dont elles n'avaient pas discerné l'importance antérieurement.
À la veille de la Première Guerre mondiale, on commence effectivement à mettre en cause le bien fondé de cette politique d'interdiction et de commencer à avoir un regard plus ouvert sur l'islam. L'idée étant que dans la conquête projetée du Maroc, on ne refasse pas les mêmes erreurs qu'on avait fait autrefois pour l'Algérie et donc d'avoir une attitude plus ouverte et plus tolérante à l'égard de l'islam. Donc effectivement, la Commission interministérielle des affaires musulmanes, créée justement à ce moment-là, a considérablement fait avancer les autorités coloniales sur le chemin d'une plus grande tolérance à l'égard des pèlerins et d'une ouverture du pèlerinage.
Un autre aspect intéressant du pèlerinage aujourd'hui, c'est la question de la participation des femmes. Parce que pendant longtemps, elles ont paru assez absentes dans le pèlerinage. Quand elles venaient, elles devaient être accompagnées soit du mari, soit d'un homme de la famille. Mais c'est une obligation qui paraît de plus en plus difficile à tenir. On a des témoignages comme quoi elles peuvent venir en groupe ou isolées. Qu'en est-il ?
Durant toute la période que j'ai étudiée, moi, au 19e et au début du 20e siècle, il est très difficile de percevoir des images de femmes, de percevoir des personnalités féminines. Elles apparaissent vraiment très, très discrètement dans les sources. On sait qu'il y a de tout temps eu des femmes, des princesses. Là encore, dans les caravanes, il y avait toute une mise en scène très belle de princesses qui se déplaçaient vers le pèlerinage dans un apparat impressionnant.
Mais accompagnées par leur mari ou leur père.
En tout cas, un mahram, c'est-à-dire quelqu'un qui, par le lien familial, ne peut avoir de relations sexuelles avec elle. Et donc c'est de fait encore théoriquement une... Alors ce n'est pas une obligation coranique, ce n'est contenu que dans la sunna, mais donc il y a normalement l'obligation d'être accompagnée par un homme pour les femmes, mais c'est une situation, vous le disiez, qui aujourd'hui est de plus en plus difficile à tenir, parce qu'il y a un célibat de plus en plus important, des veuves, enfin, etc.
La sunna, c'est quoi ?
C'est la tradition, c'est les dits du prophète qui constituent donc la base juridique en fait de l'islam.
Donc on a l'impression d'une évolution à cet égard, d'après ce qu'on peut savoir.
Une évolution qui, comme toutes les évolutions, est soumise aussi à des débats très vifs à l'intérieur même de la communauté musulmane, parce qu'il y a ceux qui sont prêts à admettre des changements et puis ceux qui ne le sont pas. Donc effectivement, c'est encore soumis à des tensions très importantes.
Dans un pays de surcroît, l'Arabie Saoudite, qui est un de ceux sur cette planète qui traite le moins bien les femmes dans la société civile.
Les Saoudiens tentent d'imposer une séparation des sexes très stricte au sein du pèlerinage, ce qui est en fait un peu une remise en cause de tout ce qui a été, parce que justement le pèlerinage est un lieu de mixité dans l'islam, y compris il y a très longtemps, et alors que là les autorités saoudiennes cherchent justement à faire cette séparation des sexes que les pèlerins ne sont pas toujours d'ailleurs disposés à admettre.
Vous avez évoqué Sylvia Chifolo au long de notre conversation consacrée à au voyage à la Mecque, au pèlerinage à la Mecque, certains aspects économiques. Ça n'est pas à faire injure au contenu religieux du pèlerinage que de l'évoquer, et c'est très important. Et le pèlerinage a coûté cher à toutes les époques, coûte cher aujourd'hui encore, et maintient sur place souvent une différenciation sociale que l'on prétend voir effacée. Écoutez donc cette interview d'un directeur d'agence de voyage qui est donnée à Paris, à Interactualité, le 25 août 1985, et qui pose très clairement, je crois, ces questions.
La vie également a beaucoup, beaucoup augmenté en Arabie Saoudite. Bon, ben, le moindre thé ou café coûte 4-5 francs par rapport à la France. C'est terrible. Et ça fait excessivement cher. Vous savez que chaque pèlerin, par exemple, doit, sacrifier un animal à la fin du pèlerinage. Le moindre mouton coûte 1000 à 1500 francs pour pouvoir l'acheter, le sacrifier. Alors vous pensez que chaque pèlerin doit au moins avoir déjà le prix du mouton, plus le transport qui revient à 9000 et quelques, plus l'hébergement sur place qui n'est pas donné, parce que il y a des centaines de milliers de gens qui arrivent, et il y a à peine quelques années, l'infrastructure hôtelière ne suffisait pas. Alors les Saoudiens eux-mêmes, en général, s'en allaient et louaient leur maison à des logeurs professionnels. Ces logeurs professionnels s'appellent des mutawifs. Ces seules grandes familles peuvent louer aux pèlerins qui arrivent en Arabie Saoudite. Et alors, les mutawifs, bien sûr, profitent de cette manne. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la charge est héréditaire et se transmet de père en fils. Parce que un mutawif loue une pièce de, je sais pas moi, de 8-10 mètres carrés à un matelas près. Et par exemple, chaque matelas coûte 1000 à 1500 francs pour la période de la Mecque. Or, si dans une pièce il peut mettre 10 matelas, faites le compte et voyez à quel prix il peut louer cette pièce que lui a obtenu à des prix 10 fois moindres. Plus les cadeaux à ramener, parce que un pèlerin ne peut pas revenir sans avoir acheté quelques objets soi-disant religieux, qui la plupart du temps émanent de Taïwan ou de Hong Kong. Mais enfin, toujours est-il qu'il faut qu'il ramène quelque chose à ses enfants, à ses petits-enfants. Et comme en général, nos familles musulmanes sont très, très nombreuses, Alors imaginez le nombre de cadeaux que le pèlerin doit ramener, si bien que... Il me semble qu'il faut quand même un budget d'au moins 30 000 francs pour pouvoir faire un pèlerinage raisonnable.
Oui, cet aspect économique est toujours important, hein, quelque part entre l'essentiel et le dérisoire. On peut le retrouver d'ailleurs avec un certain nombre d'objets pieux du côté de Lourdes ou de Lisieux, du côté des pèlerinages catholiques sûrement, et peut-être ailleurs, peut-être du côté de l'hindouisme. Mais ce qui rapproche plus de l'hindouisme, c'est la dimension des foules.
Oui, qui est plus importante encore dans certains pèlerinages hindous, hein, qui peuvent rassembler plusieurs millions de pèlerins. Mais la dimension économique, effectivement, est constante. Hein, elle était depuis l'origine du pèlerinage à la Mecque. Il y a toujours eu des liens très forts avec l'économie parce qu'il y avait des marchés qui, évidemment, sont liés à la pratique pèlerine, hein, dans tout pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque, effectivement, draine énormément de richesses. Hein, les caravanes transportaient beaucoup de présents, de richesses pour la péninsule arabique, pour les habitants du Hedjaz. Les pèlerins eux-mêmes dépensent évidemment beaucoup d'argent pour réaliser leur voyage, beaucoup d'argent sur place pour y rester, pour y demeurer le temps du pèlerinage. Et puis aussi, c'est une bonne affaire économique pour ceux qui exploitent ce pèlerinage, c'est-à-dire les différentes autorités qui se sont succédées au Hedjaz, à la Mecque. Les récits de pèlerinage des musulmans sont très prolixes sur cette question-là, de l'exploitation des pèlerins. C'est par les Moutawifines dont parlait ce directeur d'agence tout à l'heure, qui non seulement offrent le logement, mais aussi tous les services dont les pèlerins ont besoin sur place et qui, évidemment, touchent bakhchich et rémunération en échange de leurs services. Donc, c'est effectivement un business important, hein, pour tous les habitants de l'Arabie saoudite et aujourd'hui pour les autorités saoudiennes. C'est une manne financière, évidemment, très, très importante en raison du nombre maintenant de pèlerins qui se joignent à la Mecque chaque année.
Vous voulez dire que si un jour le pétrole cessait de faire la prospérité de l'Arabie saoudite, il pourrait y avoir là un relais pour le budget du pays ?
Absolument, c'est pour ça aussi que l'Arabie saoudite cherche à augmenter encore le nombre de pèlerins qu'elle peut accueillir sur place, d'où les constructions pharaoniques qu'elle entreprend actuellement.
Quitte à prendre tous les risques qui ont été à l'origine de notre conversation. Je vous remercie beaucoup, Sylvia Chifolo. Votre ouvrage s'appelle « Le voyage à la Mecque, un pèlerinage mondial ». C'est essentiel, en terre d'islam, paru tout récemment aux éditions Belin, en 2015 donc. Vous avez également donné, il y a un peu plus longtemps, aux presses universitaires de Rennes, les excellentes presses universitaires de Rennes, un livre consacré aux aspects sanitaires de ce sujet, « Genèse de la santé publique internationale de la peste d'Orient », que nous avons évoqué, à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, en 2012. J'ai cité le nom de Slimane Zeghidour. Nous lui devons une vie quotidienne. Vous savez, dans la collection prestigieuse d'Hachette, bien connue, qui avait été ouverte par la vie quotidienne à Rome de Jérôme Carcopino, la vie quotidienne à la Mecque de Mahomet à nos jours, un volume paru en 1989. Les prochains rendez-vous de l'histoire de Bois, j'y songeais en vous écoutant, seront consacrés à un thème qui se résume en un seul vocable, en un seul verbe, ce sera partir. Donc évidemment, vous serez invité. Il y a aussi une exposition au British Museum qui a été reprise à l'Institut du Monde Arabe sur ce même thème.
Une très belle exposition sur le Hajj, effectivement, qui a été d'abord faite au British Museum en 2012, puis ensuite à Lima. Il y a de très beaux catalogues qui ont été faits à cette occasion. Et pour tous ceux qui s'intéressent et qui veulent voir tous les aspects aussi esthétiques très importants qui sont nés autour du Hajj, donc du pèlerinage, sont invités à voir ces beaux catalogues.
Merci encore, merci. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, retrouver une bibliographie plus complète encore sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, des documents sonores, et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous nous placerons dans la perspective de la grande conférence de Paris sur le climat et j'inviterai Jean-Baptiste Fressoz pour parler du thème suivant, la fin du monde. Par la science, point d'interrogation, genèse d'une angoisse. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux soutien de Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, réalisée comme chaque semaine par Patrick Molinier, avec à la prise de son Florent Layani, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Arnaud Plançon. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour affaires étrangères.